La Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire s'associe à Radio Campus Tours pour donner une fois par mois la parole à un acteur de la recherche en sciences humaines et sociales dans son émission La Méridienne.
Structure fédérative des équipes de recherche en sciences humaines et sociales des universités de Tours et d'Orléans avec le CNRS, la MSH a pour vocation de favoriser les échanges interdisciplinaires et soutenir les projets émergents.
En appui à la recherche, son atelier numérique offre un panel de services pour accompagner chercheurs et doctorants de l'élaboration à la valorisation de leurs projets.
Pour plus d'informations, consultez le site internet www.msh-vdl.fr.
Midi sur Radio Campus Tours, vous nous rejoignez dans la Méridienne et comme l'annoncé, notre introduction, merci à Dinyu et à son collègue. Nous sommes avec une invitée qui est liée à la MSH. Bonjour Erika Guillet.
Bonjour.
Alors Erika Guillet, vous êtes doctorante en sciences de l'éducation et votre thèse porte sur la langue des signes comme outil pédagogique pour l'enseignant, c'est ça ?
C'est exactement ça.
En quoi consiste votre thèse ? Puisque voilà, le raccourci, cette pensée que vous adressez aux personnes non entendantes, eh bien non.
C'est ça, on associe tout le temps la langue des signes aux personnes non entendantes. Et moi, je fais le contraire. En fait, j'utilise la langue des signes avec mes élèves pour mieux leur faire apprendre les différentes matières, les domaines.
Donc voilà, vous venez de dire avec vos élèves. Donc ça veut dire que vous êtes doctorante et enseignante.
C'est ça. Donc j'ai fait une licence de sciences d'éducation, ce qui m'a permis de faire des stages directement en école. Donc j'avais ma propre classe avec lesquelles j'utilisais aussi la langue des signes. En utilisant donc ce nouvel outil pédagogique. Et aujourd'hui encore, je continue avec mes élèves à enseigner la langue des signes.
Alors, est-ce que vous voulez nous raconter un peu plus en détail votre parcours d'études et comment on devient tout d'abord enseignante, puis ensuite, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire une thèse ?
Alors, j'ai fait une licence de sciences de l'éducation. Et ensuite un master MEF, donc métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, en premier degré. Donc premier degré, c'est tout ce qui est école primaire, donc maternelle et élémentaire. Et j'ai fait une thèse parce que depuis petite, je parle la langue des signes grâce à une amie à moi avec laquelle j'ai grandi, qui est sourde, qui s'appelle Lucie, qui m'a appris la langue des signes. Et du coup, j'ai tendance à tout le temps utiliser mes mains pour parler. Et lorsque j'étais face à mes élèves, j'utilisais encore mes mains en langue des signes et je traduisais en fait ce que je disais. Je ponctuais ce que je disais avec des signes. Et là, je me suis rendu compte que les enfants qui étaient allophones, donc qui n'ont pas la langue française comme langue maternelle, comprenaient mieux ce que j'étais en train de leur dire et que ça aidait aussi les élèves dyslexiques à mieux comprendre ce que je leur apprenais.
Vous avez un exemple ?
Eh bien, par exemple, il n'y avait pas de confusion de mots ou de sens, comme quand on est face à des homonymes, donc des mots qui ont la même consonance, si le ver de terre ou le ver pour boire. Par exemple, si je demande à un enfant de me dessiner un oiseau qui vole, j'attends de lui qu'il ne me dessine pas un oiseau voleur, mais un oiseau qui s'envole, pas un oiseau qui dérobe, enfin, pour éviter les confusions de mots ou de sens.
À quel moment ça s'est articulé, votre envie d'en faire un travail de recherche ? Parce que ça aurait pu rester une initiative personnelle, après tout, un outil efficace dans votre classe. Mais pourquoi vous avez eu envie de faire une thèse sur le sujet ?
Bah, face à ma classe, je me suis rendu compte que ça les aidait réellement. Et je me suis dit qu'il y avait réellement quelque chose à faire derrière et à montrer que la langue des signes pouvait aider les élèves entendants qui avaient des problèmes de communication orale ou écrite. Et du coup, j'ai poursuivi. J'ai fait d'abord un travail de mémoire pendant mon master sur est-ce que la langue des signes avait sa place dans la classe. À partir de là, j'ai montré que oui, elle avait sa place parce que la langue des signes est reconnue comme langue à part entière depuis 2005, donc au même titre que l'anglais, l'allemand, le français. Et du coup, je me suis dit oui, on peut enseigner la langue des signes en classe, donc elle a sa place. Et étant une langue à part entière, en fait, elle apporte en plus aux enfants entendants par rapport à leur langue maternelle. En fait, l'enfant va se baser sur sa propre langue maternelle pour mieux comprendre les langues qu'il est en train d'apprendre. Par exemple, parce que c'est un peu compliqué, En français, la structure syntaxique d'une phrase, donc comment une phrase est construite, on fait sujet, verbe, complément. En langue des signes, c'est le contraire. Donc on va faire complément, sujet, verbe. Et l'enfant va se baser sur sa langue maternelle en se disant, bah tiens, c'est le contraire. Donc s'il se dit que c'est le contraire, c'est qu'il a appris qu'en français, c'était sujet, verbe, complément.
Alors peut-être que vous pouvez nous expliquer maintenant, plus précisément, votre thèse. Comment elle est construite? Qu'est-ce qu'on peut y apprendre? Qu'est-ce que vous y cherchez?
Étant donné que j'ai montré que la langue des signes pouvait être enseignée en classe, maintenant j'essaie de montrer qu'elle peut être un outil pédagogique, c'est-à-dire une manière de faire apprendre les élèves. Donc comme un manuel scolaire, en fait j'utilise la langue des signes comme base pour mieux faire apprendre les élèves, pour mieux qu'ils aient une compréhension de ce que je suis en train de leur dire.
Alors il faut aussi se figurer que, puisque nous sommes dans le domaine des sciences humaines, est-ce qu'on peut dire que votre laboratoire, c'est votre classe? En fait, vous n'avez pas de laboratoire avec des éprouvettes ou que sais-je.
Mes élèves sont mes cobayes. Je ne les mets pas dans des éprouvettes, mais entre guillemets, je m'entraîne sur eux et je vois si ça marche ou pas. Donc j'ai une grille d'observation et je vois s'ils ont appris ou pas. Si par exemple, j'ai remarqué aussi que la langue des signes aidait à la mémorisation. Et du coup, je vais faire apprendre une poésie à mes élèves en utilisant la gestuelle de la langue des signes et voir si les enfants qui habituellement ont du mal à apprendre une poésie vont mieux apprendre et vont mieux réciter plus fluidement leur poésie après cet apprentissage.
Mais ça, c'est une indication précieuse aussi sur comment on fait de la recherche en sciences humaines, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décoller déjà de votre terrain de recherche, votre classe, et qu'en plus mais vous avez besoin de travailler pour financer votre travail de recherche.
Exactement, du coup j'ai fait trois boulots à côté, parce que étant donné que je n'ai pas de financement pour ma thèse, je suis professeure des écoles au milieu classe, donc c'est le contrat local d'apprentissage à la scolarité, donc en fait je récupère les enfants qui ont des difficultés scolaires après l'école, de 4h30 jusqu'à 18h30, et je leur donne des cours de soutien. Je suis aussi dans la direction d'un centre de loisirs, donc soit adjointe de direction, soit directrice quand le directeur n'est pas là. Et je suis aussi ingénieure de recherche dans le laboratoire de l'ERERC, qui est en éthique santé, à Bretonneau.
Voilà. Vous riez, ça, avec combien d'heures de travail par semaine à peu près?
Sincèrement, je préfère pas calculer, mais je commence tous les jours entre 7h30 et 8h, et le soir je finis à 19h, 20h. Je compte plus. Étant donné qu'après le travail, il y a aussi la thèse à rédiger et à chercher, je compte plus les heures.
Ouais. Tant mieux peut-être.
Oui, tant mieux. Parce que sinon, j'arrêterai tout de suite.
Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider aussi dans votre travail de recherche? Parce que là, on voit que vous devez travailler à côté, vous avez plusieurs emplois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement pour les recherches en sciences humaines?
Pas dans tous les domaines. En archéologie, par exemple, on peut avoir un financement, mais en sciences de l'éducation, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de matériel à fournir, il n'y a pas des prouvettes ou de labos à financer concrètement, et du coup, non, il n'y a pas de financement. Après, la plupart des doctorants en sciences humaines, on leur propose un sujet de thèse, donc un sujet sur lequel ils vont postuler, et si le sujet est proposé, il peut y avoir un financement derrière. Moi, mon sujet n'a pas été proposé, c'est moi qui ai proposé mon sujet directement, donc il n'y avait pas de financement, comme la plupart des doctorants.
Et alors, quand votre travail aura abouti, en tout cas, votre thèse sera terminée, peut-être que il va servir à d'autres choses, à d'autres recherches après.
Ah bah j'espère.
oui, bien sûr, mais oui, pardon, mais ça veut dire que peut-être que ça va permettre à d'autres personnes de se baser sur votre travail, pour le coup, pour gagner quelque argent.
Ça c'est totalement possible. On va forcément utiliser mes recherches pour telle ou telle autre recherche et moi j'aurais pas eu de financement derrière, mais c'est une problématique de vie, on va dire, donc c'est ce que j'ai choisi de faire.
Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un engagement personnel important.
Ah, totalement.
Voilà. Au-delà de toute recherche de financement possible et imaginable.
C'est un sujet passion en fait.
Voilà, et donc ça c'est un argument qu'on entend souvent aussi. Ah, vous faites quelque chose qui vous passionne, vous avez choisi de le faire, alors Ne vous plaignez pas s'il n'y a pas d'argent.
Exactement.
Voilà, Erika Guillet, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette émission La Méridienne. Et on continue après, bien sûr, à parler de votre travail de recherche. Je propose d'écouter le Hadouk Trio. On va écouter Le Bal des Oiseaux dans La Méridienne. Et on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours. La Méridienne et je suis avec Erika Guillet qui est notre invitée aujourd'hui. Erika Guillet, doctorante en sciences de l'éducation, et votre thèse porte sur la langue des signes comme outil pédagogique pour l'enseignant. Alors, est-ce que vous avez constaté, Erika Guillet, qu'il y a un intérêt plus important pour la langue des signes ces derniers temps? Est-ce qu'il y a un engouement pour la langue des signes?
Ah bah totalement, en ce moment on entend parler de la langue des signes très très régulièrement, notamment avec les bébés signeurs, avec le phénomène américain qui veut que apprendre la langue des signes à son bébé pour qu'il y ait une meilleure communication, une meilleure compréhension de ce qu'il dit, et dans ce cas éviter les pleurs. En soi, je l'ai étudié aussi et ça a l'air de très très bien marcher, de fonctionner. Donc oui, il y a vraiment un engouement pour la langue des signes. Même depuis le film Ma famille Bélier, c'est ça ?
La famille Bélier.
Et la famille Bélier, c'est ça, oui. Donc, il y a eu un réel intérêt pour la langue des signes. Et en fait, une prise de conscience de ce que la langue des signes peut apporter.
Voilà, donc aussi bien aux personnes entendantes,
oui,
que comment dire, aux personnes malentendantes ou sourdes, en tout cas les personnes qui signent, parce que il y a plein de contextes où en fait les personnes qui n'ont pas le langage vocal oral peuvent se sentir complètement exclues, parce que même dans les services publics, dans les commerces,
C'est ça, c'est totalement ça. En fait, c'est une personne sourde aujourd'hui, elle est obligée d'avoir un traducteur avec elle aussi, si elle va par exemple chez le médecin ou à la mairie ou quoi que ce soit. Tandis que par exemple en Nouvelle-Calédonie, la langue des signes est reconnue comme... En Nouvelle-Zélande, pardon. La langue des signes est reconnue comme troisième langue officielle. Donc une personne malentendante peut se rendre dans un supermarché ou dans un service administratif et on va lui parler et lui répondre en langue des signes. Ici en France, pas du tout. Et on est obligé d'avoir un traducteur à côté. Et l'intérêt du coup pour mes élèves aussi d'apprendre la langue des signes, c'est que pour plus tard, ça va les aider totalement à rencontrer d'autres personnes sourdes et puis à intégrer les personnes malentendantes dans leur cercle d'amis, pourquoi pas. Et par exemple, j'ai un élève qui souhaite devenir pompier plus tard et il répond totalement à ce contexte-là. Ou plus tard, il va notamment aider les personnes malentendantes ou sourdes à leur expliquer ce qui leur arrive, ce qui va se passer pour eux, etc., si elles ont eu un accident ou quoi.
Voilà, donc je reviens juste sur le... Parce que tout à l'heure, vous citiez l'année 2005. Hein, donc je rappelle que la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances donne aux jeunes sourds le droit entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française. Voilà, le ministère de l'Éducation nationale a donné à la langue des signes française, la LSF, une place que la communauté sourde peut-être attendait depuis longtemps, puisque les programmes d'enseignement dans cette langue ont été conçus, ainsi que des outils pédagogiques et ressources diverses pour aider les enseignants. Voilà. Donc il y a aussi maintenant une épreuve option LSF au bac depuis 2008, et en 2010, il y a eu la première session du CAPES de LSF. Alors on progresse lentement.
C'est ça. Et du coup, là, c'est des outils pédagogiques pour apprendre la langue des signes, alors que moi, c'est la langue des signes pour faire apprendre aux élèves. Donc c'est le contraire, c'est la langue des signes que j'utilise comme outil pédagogique.
Est-ce que l'idée de cet outil de langue des signes pour les gens entendants, c'est vraiment un projet culturel et social? Vous pensez vraiment que ça peut avoir un impact réel sur la...
Bah, ça a un impact déjà, là je le vois avec mes élèves. Ils sont dans la même classe, certes, mais ça crée en fait un lien entre eux parce qu'ils arrivent à communiquer maintenant en langue des signes. Et même dans la cour de récréation, ils s'amusent à jouer aux malentendants, à signer entre eux. Et puis, ça a créé réellement un groupe. Et ils essayent de faire apprendre aussi la langue des signes à leur père, donc aux élèves qui sont dans d'autres classes. Donc ça les rapproche. Et ça permet aussi, pour plus tard ou maintenant, hein, de communiquer avec des personnes malentendantes.
Et même on peut penser, parce que là, que ça permet aux enfants donc, de coopérer entre eux, et puis donc de dire leurs émotions. Donc, et est-ce que ça peut avoir une utilisation quelconque sur une idée de gestion de groupe, ou même pour des adultes?
Alors pour la gestion de groupe, en tant qu'enseignant, on peut avoir une classe à double niveau. Par exemple, j'ai une classe de grande section CP et j'ai utilisé la langue des signes à ce moment-là où je mettais en autonomie le groupe de CP et je travaillais avec les grandes sections. Et en fait, j'utilisais la langue des signes pour les CP en même temps que j'étais en train de parler aux grandes sections. Donc par exemple, je donnais mon cours, j'expliquais, je dis n'importe quoi, on travaillait sur l'alphabet. Et après, à côté, il y a un CP qui va lever le doigt, je vais l'interroger, il va me dire est-ce que je peux aller aux toilettes, et je vais lui dire oui en langue des signes, sans pour autant avoir cassé mon discours envers les grandes sections. Où je peux leur demander de se calmer un petit peu, de continuer à travailler, tout ça en langue des signes, alors que je suis en train de gérer, entre guillemets, les grandes sections.
Vous arrivez à vous dédoubler quelque
c'est
part.
C'est ça. Donc, d'un côté, je me dédouble, et de l'autre, je parle en sous-titres. En sous-titrant.
Comment vous arrivez alors à faire ça, de vous sous-titrer en parlant avec un groupe tout en signant pour l'autre? Comment vous arrivez à faire les trois?
Alors là, je sais pas, c'est le cerveau qui travaille. Et du coup, oui, c'est vu que j'ai l'habitude de parler avec mes mains, je pense qu'indirectement, j'arrive à gérer un petit peu tout ça. Donc il y a la classe d'un côté, l'autre groupe classe de l'autre, et puis je surveille de chaque côté, et puis bah, les mains parlent pour un groupe et la voix parle pour l'autre.
Est-ce que ça donne un rythme ou un environnement sonore différent à la classe?
Ah bah totalement. Ça les calme un peu plus, ça les apaise un peu plus, dans le sens où ils savent que dans tous les cas, là sur la gestion de groupe en tout cas, ils sont en autonomie, donc de base ils doivent être plus silencieux, mais ils savent aussi que je peux intervenir à n'importe quel moment, soit en langue des signes, et quand c'est vraiment trop le bazar, je mets la voix aussi pour qu'ils entendent mieux. Voilà.
Mais alors ça leur, comment dire, ça induit aussi une compréhension différente, de dire si une notion de gravité, en fait, de se dire, ah, si la maîtresse, tant qu'elle ne parle pas, ça va. Et de dire qu'il y a une borne à pas dépasser, ça part du moment où il y a de la voix.
C'est ça. Et puis, c'est une manière inconsciente, en fait, de se dire que... Parce que, en fait, avant de leur faire apprendre la langue des signes, je fais une séance d'initiation au handicap et de compréhension de ce qu'est la langue des signes. Donc, j'explique à quoi elle sert, à qui elle correspond, etc., quelle langue. Puis, je parle aussi de la communauté sourde. Et donc, de manière inconsciente, en utilisant la langue des signes, ils savent que le ton va baisser, que le niveau sonore baisse. C'est un peu comme si on emmène les enfants dans une bibliothèque. On sait que dans une bibliothèque, on n'a pas vraiment le droit de parler très fort, on doit chuchoter. Et donc là, c'est exactement la même chose avec la langue des signes. C'est de manière inconsciente.
Et là, en plus, vous leur montrez qu'il n'y a c'est pas la peine de crier.
Exactement, je comprends.
Tout à fait. Qu'on les entend, en fait, c'est pas la peine de crier.
Exactement. Donc, même en signant, on peut crier, mais je les vois.
Voilà. Oui, c'est sans doute, ça change leur rapport au monde, même à eux-mêmes.
En fait. Oui, totalement.
Qu'est-ce que vous aimeriez tester avec vos élèves?
Là, pour l'instant, j'essaye de les amener à un niveau A2, donc en langue des signes. Donc, en fait, j'ai fait l'année dernière, je leur ai appris la langue des signes, mais indirectement. Donc je parlais et en même temps je ponctuais avec certains signes, et donc à force de les voir, ils ont compris que tel signe voulait dire travailler, l'autre chuchoter, l'autre s'asseoir, l'autre comme ça. Et du coup, cette année, je leur donne directement des cours de langue des signes comme on donne des cours d'anglais. Et donc j'essaye de voir si ça apporte un peu plus, si l'enfant comprend aussi bien, s'il y a plein de questions en fait pour... auquel je vais répondre après.
Et alors, comment dire, qu'en est-il des élèves qui peuvent être en échec scolaire? Je pense aux enfants, par exemple, qui sont dyslexiques, qui ont du mal avec tout ce qui est écrit. Et donc là, en fait, de leur permettre d'avoir une autre façon de s'exprimer, ou peut-être, est-ce qu'ils sont... Et peut-être qu'ils ne sont pas en échec dans ce cas-là? Comment ça se passe?
Alors, ils sont moins en échec. Enfin, après, pour le dyslexie, je parlerais moins d'échecs, mais plus de compréhension. Mais dans le sens où il n'y a plus de confusion de mots. Là-dessus, ils arrivent à... Par rapport à mon discours, ils arrivent à comprendre ce que je suis en train de leur dire. Après, ils arrivent aussi... Enfin, au niveau de la lecture, je me base sur la méthode de Borel-Mezoni. Donc Borel-Mezoni, c'est une méthode de lecture, d'apprentissage de la lecture. On utilise des gestes pour chaque phonème. Donc les phonèmes, c'est le son que chaque lettre va faire. Et en fait, au lieu d'utiliser les gestes de Borel-Mezoni, j'utilise l'alphabet en langue des signes. Et ça, ça leur permet en fait de mieux apprendre la lecture. En fait, ils reconnaissent la lettre, ils font le signe, et de là, ils sortent le son.
Est-ce qu'il y a d'autres écoles, peut-être, ou des collègues qui utilisent ce même outil?
Alors, je sais qu'en France, il y a des écoles qui utilisent la langue des signes, en Bretagne notamment. Après, il y a vraiment, vraiment très, très peu d'écoles qui utilisent la langue des signes pour des enfants entendants. En fait, dans le bulletin officiel, il est noté qu'on peut utiliser la langue des signes à partir du moment où il y a un enfant qui est sourd dans la classe ou à partir du moment où il y a un élève qui a dans sa famille une personne sourde. Sauf que moi, j'utilise la langue des signes même s'il n'y a pas d'enfant entendant ou s'il n'y a aucun cas de surdité dans la famille.
Et vous n'êtes pas hors la loi? On ne vous fait pas remarquer que...
On m'a déjà fait la réflexion comme quoi c'était non, c'est trop nouveau, c'est pas possible ou quoi que ce soit. Mais après, j'en parle aussi aux parents, je discute avec eux et puis ils voient aussi l'évolution. Donc pour eux, c'est nouveau. Et le fait que ce soit aussi tendance la langue des signes, c'est une autre manière de parler, une autre manière de s'adresser. Et ils voient aussi l'intérêt que leur enfant porte à la langue des signes.
Voilà, mais c'est quand même minime, les oppositions, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir.
Oui, pour l'instant, c'est minime. Voilà. On verra plus tard, mais normalement, c'est minime.
Mais voilà, en plus, j'essaie de trouver des contre-arguments, mais comment... j'essaie d'imaginer qu'est-ce qui pourrait être dit, en fait, pour limiter cette utilisation de la langue des signes.
Eh bien, j'en ai déjà eu par rapport à mes collègues qui m'ont dit, mais moi j'ai déjà plein de formations à côté, j'ai les horaires de travail, les corrections à faire, j'ai pas envie d'apprendre non plus toute une langue pour aider mes élèves. Donc je leur comprends dans le sens où moi je leur dis pas d'apprendre toute la langue des signes parce qu'il faudrait des années, puisque c'est une langue et qu'elle évolue et que forcément ça change. Mais simplement d'apprendre quelques mots pour ponctuer leur discours. Comme une sorte de petit manuel d'utilisation où on aurait dessus écrit comment on dit travailler, s'asseoir, se mettre debout, sortir, aller aux toilettes, enfin des signes de base et des signes, enfin l'alphabet dessus. Et du coup, il y aurait moins de mots à apprendre, mais ça reste... Vu ce que ça apporte, je pense qu'il y a un réel intérêt derrière.
Et ça crée une identité aussi, peut-être sur un établissement, de dire tiens, là, il y a une classe où on apprend ça. Peut-être si ça s'étend à toute l'école, ça crée une identité.
Ah bah, clairement, je pense, oui, parce que là, déjà, avec ma classe, les élèves, ça leur rapporte un plus, en fait. Ils sont fiers d'apprendre la langue des signes, ils en parlent à tout le monde, ils le montrent à la famille, ils le montrent à leur... À leur père, comme je disais tout à l'heure, du coup, je pense que oui, ça leur crée vraiment une identité à part entière.
Je propose de faire une autre pause musicale. Je propose d'écouter Orange Blossom et on va écouter Habibi.
Yes.
Écoutez la Méridienne sur Radio Campus Tours. Je suis toujours avec mon invitée Erika Guillet et nous parlions de votre thèse. Vous voulez nous en rappeler le sujet ?
Ma thèse, c'est la langue des signes comme nouvel outil pédagogique pour l'enseignant.
Voilà, et il me semble même que vous avez participé à ma thèse en 180 secondes.
C'est ça, exactement.
C'est quoi cette chose alors, ce concours ? En quoi ça consiste ?
Alors, c'est un concours qui permet aux doctorants de présenter leur thèse, leurs travaux de thèse, mais en 180 secondes chrono. Donc 3 minutes, et pas une de plus.
Alors j'imagine que c'est... Comment c'est possible de condenser autant de travail en...
C'est ça. 3 ans en 3 minutes. C'est énorme, mais c'est, ça permet en fait de vulgariser sa thèse, donc de la rendre visible et possible à n'importe lequel d'entre nous. Et ça permet, nous, en tant que chercheurs, de poser les vrais termes et sur nos recherches, en fait.
Et alors, pour nos auditeurs qui, par hasard, nous rejoindraient en plein milieu de l'émission, qu'est-ce que vous en diriez de votre thèse ?
Qu'elle est passionnante.
Mais ça, on n'en doute pas un seul instant, on le sait. Mais qu'est-ce que vous leur en diriez si d'aventure, des auditeurs prenaient cette émission en cours de chemin ?
Donc la langue des signes, je l'utilise comme outil pédagogique, c'est-à-dire que je vais l'utiliser pour faire apprendre aux enfants, pour leur permettre de mieux comprendre ce que je suis en train de leur dire en tant qu'enseignante. Donc ça va aider les élèves entendants dyslexiques, allophones, donc ceux qui ne parlent pas, qui n'ont pas la langue française comme langue maternelle, ou les enfants dysphasiques, donc qui ont des troubles du langage oral, à mieux comprendre ce que je leur dis.
Et mise en forme concrète, vous enseignez la langue des signes à vos élèves.
C'est ça, mais partiellement, pas en totalité, oui.
Qu'est-ce que vous allez faire quand votre thèse sera finie ?
Alors j'aimerais bien être enseignante-chercheuse pour continuer mes recherches, notamment sur la langue des signes, sur c'est tout ce qu'elle apporte à l'apprentissage, et puis enseignante à l'université pour promouvoir un petit peu ce que je suis en train de faire, et puis... former les futurs enseignants. Le mieux, ça serait de leur former à ma future pédagogie sur la langue des signes, et puis tout en cherchant derrière, en continuant des recherches sur l'éducation pour améliorer tout ce qui est améliorable.
Où est-ce qu'on peut lire vos travaux ? Il y a quelque part où on peut lire vos travaux ?
Alors pour l'instant non, après j'ai une vidéo YouTube sur ma thèse en 180 secondes, mais pour l'instant il n'y a pas de...
Ou alors peut-être, est-ce que vous avez des sites ou des écrits peut-être à recommander à nos auditeurs qui s'intéressent à ce sujet ?
Alors il y a un auteur qui s'appelle Yves Delaporte, qui est ethnologue en langue des signes, donc qui ethnologue en langue des signes, non, mais sur les... qui s'intéresse en fait à la communauté sourde et qui est vraiment, vraiment très, 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 très intéressant.
Donc voilà pour Yves Delaporte. Et si nos auditeurs s'intéressent à la communauté sourde, alors qu'est-ce que vous aimeriez en dire ?
Cette communauté sourde, moi, j'aimerais ouvrir notre monde entendant à la au monde sourd et ouvrir le monde sourd au monde entendant. Donc, en fait, ça permet aux entendants de mieux comprendre la vie quotidienne d'une personne malentendante et ce qu'elle peut, comment elle vit vraiment au jour le jour. Quoi. C'est...
Voilà, et je pense qu'il y a aussi des clichés à évacuer. C'est de dire, par exemple, la langue des signes, même si elle n'est pas orale ni écrite, ça n'empêche pas qu'elle soit pleine d'humour. Il y a de l'humour.
Ah bah totalement. Et il existe de l'humour sourd. comme il existe de l'humour purement anglais ou purement allemand ou purement français.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur l'humour sourd, justement ? Qu'est-ce qu'il a de spécifique ?
Là, je ne sais pas trop comment le décrire, en fait, parce que vu qu'on est à la radio, je ne peux pas trop raconter une blague en langue des signes, mais... oui, ça reste de l'humour quand même, et c'est en fait comme un jeu de mots, mais on va dire un jeu de signes.
Donc c'est-à-dire un jeu de signes, parce qu'il y a aussi des...
Il y a des signes, en fait, en langue des signes, il y a des signes qui se ressemblent énormément. En fait, la langue des signes composée de cinq paramètres, en fait. Donc il y a le mouvement qu'on va faire avec la main, ou les mains, il y a l'expression faciale qui est aussi très très importante. Donc si par exemple je dis qu'une personne crie et que mon visage est totalement stoïque, ça veut dire autre chose. Ou il y a la façon dont on fait le geste aussi. Donc il y a plein de caractéristiques qui font que ça code un signe. Et si on change une des caractéristiques, ça veut dire autre chose.
Voilà, donc si par exemple on dit quelqu'un crie, mais avec... On a un visage mou ou qu'on fait le geste mollement, ça veut dire autre chose.
C'est ça. Ou si par exemple je dis que je suis contente, donc on se frotte la main sur le ventre pour dire content en faisant un grand sourire, mais si je fais pas le sourire, ça veut dire que j'ai mal au ventre. Enfin, du coup, ouais. On joue dessus.
Et ça doit être un trésor en fait pour les personnes qui s'intéressent à la traduction, d'essayer de traduire, par exemple, un décalage ou justement de cet humour, parce que ça va être aussi passionnant qu'un traducteur de n'importe quelle langue.
C'est ça, oui.
Déjà, de se dire comment je transcris à l'écrit et comment je rends un humour. Vraiment, on va solliciter Olivier Manoni, s'il nous écoute, les traducteurs et qui travaille, qui a monté une école de traduction à Paris. Traduction multilingue, je ne sais pas d'ailleurs si, parce qu'il il avait dit qu'il y avait la langue chinoise, la langue arabe et toutes les langues orales en tout cas. Et tiens, c'est une question à lui poser, est-ce qu'il y a la langue des signes dans son école ?
Intéressant de savoir ça.
Voilà.
Mais du coup, c'est comme dans toutes les langues, il y a le propre humour de la langue. Enfin, je suis réunionnaise et je sais qu'en créole, il y a des mots aussi qu'on utilise à certains moments qui font que ça rajoute de l'humour, quoi.
Et alors, est-ce que... Comment dire ? Non, c'est idiot. Non, je me tais, j'allais dire une bêtise. Alors, pour me... Comment dire ? Pour faire diversion, je propose qu'on écoute une chronique de la bibliothèque municipale. Voilà, c'est une chronique sur la BD par nos super documentalistes, BDistes, de la bibliothèque municipale. On va écouter une chronique sur Julia Vert. On se retrouve après dans la Méridienne.
Oui, bonjour, alors c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours et moi mon truc c'est la BD, donc tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non, mais bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà. À la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye. Alors, je ne sais pas s'il y a des lycéens aussi qui écoutent Radio Campus aujourd'hui.
Bien sûr.
Bonjour les lycéens.
Ils font même de la radio.
On vous conseille fortement la lecture du CID en 4e B. Donc, le CID 2. De qui déjà le CID ?
Cornet.
Voilà.
Bah justement, c'est le vieux souvenir qu'on a du prof de français qui veut nous faire absolument aimer le théâtre en quatrième. Et voilà, ça rappelle des souvenirs. En même temps, c'est très drôle. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Les portraits sont vraiment attachants. Donc, on passe un bon moment.
Et comme j'ai dit à l'autrice, quand je l'ai rencontrée, bah, ça m'a aidé à comprendre enfin le SIDA à mon âge. Je ne vous dirai pas mon âge d'ailleurs. Voilà, et peut-être donner envie de le lire un de ces jours, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de lire le SIDA sans doute en quatrième. Et en plus, bon, c'est un petit peu des élèves qui sont un petit peu chahuteurs. Voilà, il y a de temps en temps peut-être un portable qui traîne encore. Non, pas trop, parce que d'enlever les portables, mais des réflexions qui sont assez drôles. Et la prof, qui est donc l'auteur, ben, elle est très patiente. Et elle a beaucoup d'humour aussi.
Elle s'est inspirée de situations réelles ou de réflexions. Voilà, c'est assez croustillant.
Et puis son dessin, il est sympathique, avec ses gros yeux bien expressifs, tous des visages différents quand même. Hein, ils ont vraiment tous des visages qui ne se ressemblent pas. Et très agréable lecture, voilà.
On peut rappeler peut-être le nom de l'auteur et l'éditeur ?
Alors l'auteur, c'est Véropé, l'éditeur, c'est La Boîte à Bulles, donc c'est régional, du coup.
C'est un éditeur de Saint-Martin.
Voilà. Et ça coûte 14 euros. Je viens de voir le prix, là.
Et si vous n'avez pas 14 ans...
Et vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque, bien sûr.
L'emprunter à la bibliothèque.
On l'a acheté exprès pour vous, les lycéens. Et après, on peut présenter d'autres BD, hein. Je crois. Catherine, elle a une BD...
Bien sûr.
Alors, voilà. Une BD coup de cœur. Pour préparer les commissions bande dessinée, on va de temps en temps donc dans notre librairie BD préférée. Et donc j'ai vu cette bande dessinée qu'on n'avait pas forcément repérée au départ. Bon, je crois que Framboise, elle connaissait l'auteur parce qu'on a des albums d'elle qui ont été achetés précédemment. Et donc du coup, moi, je suis tombée un peu en admiration devant le dessin de Julia Wertz. Je sais pas trop.
W-E-R-T-Z.
Elle est américaine. Elle est assez jeune et donc elle a fait un travail, je trouve, formidable sur New York. Donc dans cet album qui s'appelle Les Entrailles de New York, qui est édité chez La Grume. Et donc elle a habité New York pendant une dizaine d'années. Au départ, je crois qu'elle habite, elle est californienne, je crois, c'est ça.
Oui, et d'ailleurs,
elle est née en Californie.
Premier roman, première BD a priori qui s'appelle L'attente infinie, enfin en tout cas traduite en français. Raconte sa migration entre San Francisco et New York, voilà, entre autres.
Et donc elle a fait un travail remarquable sur New York, puisque donc dans cet album assez épais en noir et blanc, elle raconte tout un tas d'anecdotes. Donc le parti pris de départ, c'est pas du tout de faire un guide touristique où on parlerait pour une énième fois de la Statue de la Liberté ou autre. C'est vraiment comment New York a évolué à travers les âges. À l'aide de dessins moi je trouve vraiment magnifiques. Donc elle prend en fait le parti de, souvent sur une double page, de présenter un bâtiment, par exemple dans les années 30, hein, et puis à l'heure actuelle ou il y a quelques années, 5 ans maximum. Elle va aussi faire une histoire, par exemple, des vendeurs ambulants, des chariots, comment ça a évolué à travers les âges, et puis les façades de maisons, beaucoup. Donc elle va prendre une façade de maison, elle va la présenter telle qu'elle existait, par exemple, en 1926, et puis à côté, elle va montrer cette même rue au même endroit dans les années 2000. C'est vraiment intéressant, ça donne une autre idée de l'histoire de New York et une histoire de l'Amérique. Elle parle aussi des télécommunications, du métro, elle parle de... Et puis de plein de petites anecdotes comme ça. Moi, j'ai noté, par exemple, il faut que je retrouve la page, les inventions, ce qui a été inventé à New York et qui a eu un grand retentissement après. Par exemple, vous savez, les oursons, on les appelle les teddy bears. Et elle explique pourquoi ça s'appelle teddy bear. Il faut que je le retrouve. Forcément, je ne vais pas le retrouver. Ah voilà, l'ours en peluche. Donc elle explique, en 1902, l'Amérique fut émue, à tort, lorsque le président Theodore Roosevelt refusa pendant une partie de chasse de tirer sur un ours brun blessé. Cela donna l'idée au propriétaire d'un magasin de bonbons de Brooklyn, Maurice et Rose Mitchum, de fabriquer un ours en peluche qu'ils baptisèrent Teddy Bears, en l'honneur de Theodore. Voilà, par exemple, ce petite chose qu'on apprend... Il parle aussi de l'invention de Monsieur Patate, que tout le monde connaît, voilà. de personnalités aussi qui ont marqué leur époque. Par exemple, le portrait de Nelly Bly, qui était une intrépide journaliste, qui a fait les 400 coups. Et elle va nous parler d'une personne aussi qui avait la typhoïde et qui la transmettait. Enfin voilà, il y a plein de portraits de personnes ayant habité New York. Et puis, surtout, ce qui est formidable, c'est tous ces plans, pareil, des plans de maison. Elle nous parle aussi de la maison de Nora Jones. Enfin voilà, c'est très varié. Ça sort complètement de ce qu'on voit d'habitude sur New York. Elle a travaillé aussi sur des photos. Elle parle d'un cimetière à bateaux, voilà. Donc c'est vraiment, je dirais, moi j'ai jamais mis les pieds à New York et ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Mais je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Quelqu'un qui a eu l'occasion peut prendre plaisir à feuilleter. Ça se déguste comme ça par petites touches, quelques pages tous les jours. Et c'est vraiment un bon moment. Tu veux parler de Julia Wirtz?
J'ai pas lu pour l'instant Les entrailles de New York et c'est vrai que ça fait envie. Ouais. Donc, Brasserie, ça lui a beaucoup plu.
Ah, oui.
Je pense que peut-être certains étudiants aussi qui s'intéressent à l'architecture, en effet, c'est intéressant parce que ses dessins, ils sont bien, quoi. Franchement.
Je suis bluffée aussi par tout ce qu'elle a dû, par le travail. La documentation qu'elle a dû réunir,
C'est une personne très marginale, et parce que aussi dans ses romans précédents, par exemple, après l'attente infinie, elle fait New York, Whisky à New York, je ne sais plus dans quel sens, parce qu'en fait, pour pouvoir arriver à faire son travail d'illustratrice, de dessinatrice, d'auteur de bande dessinée, faut bien qu'elle vive aussi à côté, et en l'occurrence, elle travaille dans des restaurants. Et elle travaille beaucoup, elle fait beaucoup d'heures, voilà. Et puis on se rend compte à un moment donné qu'il y a une accumulation de bouteilles chez elle, tout ça. Elle va parler de ses problèmes avec l'alcoolisme. Alors bon, on a l'attente infinie, New York and Whisky ou Whisky and New York. Ouais. Voilà, elle va faire en fait elle-même une cure de désintoxication. Et dans l'attente infinie, elle parle aussi des problèmes de santé de son frère, de sa mère. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est. Ça touche tous les problèmes en fait de certains jeunes, qui va s'émanciper parce qu'elle va quitter San Francisco toute seule pour la New York, c'est pas rien, c'est pas comme peut-être quitter Samar Lapide pour venir à Tours. Bon, c'est bête ce que je dis, mais je pense que c'est peut-être à une autre échelle.
Ça rejoint ce que disait Framboise, en fait, c'est aussi un peu son portrait en filigrane, parce que des fois, par petites touches, elle dit ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, ou ce qu'elle a vécu, son ancien appartement. Elle parle aussi de sa vie, en fait, le choc qu'elle a eu quand elle est arrivée, etc. Donc, en fait, il y a le côté documentaire qui est vraiment très intéressant. Je pense qu'il peut intéresser n'importe qui a envie de connaître un petit peu mieux New York. Et puis, par petites touches, par moments, elle parle d'elle, notamment son appartement, elle dessine, on le voit. En plus, elle dessine donc les façades, mais aussi par moments. Alors, je ne sais pas si on peut dire, c'est pas de la 3D, mais quand on voit un plan en profondeur, vous voyez, c'est un peu comme une maison de poupée ou
en perspective.
Oui, c'est ça. Et du coup, ça, je trouve ça très fort. Il faut évidemment que j'en trouve un, mais ça va pas parler aux auditeurs, c'est sûr. Voilà, ce genre de petits plans où là, on voit en perspective. Je trouve ça très. Très bien fait, très réaliste et
on est presque dans le dessin technique.
Oui, presque, oui. Et ça, alors après il y a le plan pur avec les escaliers, les cloisons, etc. Et puis par moment elle fait un plan différent, donc c'est vrai que ça.
Alors qu'est-ce qui fait justement la dimension autobiographique, mais que cet ouvrage-là n'est pas froid parce que c'est du très très fin, très minutieux. Et pourquoi qu'est-ce qui fait que ce n'est pas quelque chose de froid et que c'est pas juste une bête encyclopédie?
Déjà, je trouve que le trait n'est pas si froid et puis l'écriture, ce qu'elle y dit, c'est très drôle. Il y a plein d'humour. Enfin voilà, ce qui fait que c'est vraiment un recueil de son New York à elle, un peu des recherches qu'elle a. C'est très personnel en fait. Finalement, c'est son guide de New York à elle. Et d'ailleurs, elle termine l'ouvrage par une balade. En fait, à la fin, il n'y a pas du tout de texte. Et en fait, en gros, on tourne les pages et en fait, on longe la rue. On continue la rue et elle a dessiné tout au long de cette rue. Elle a fait tout un cheminement dans un quartier qu'elle aime bien. Et du coup, on suit au fur et à mesure on tourne les pages et on est sur. En fait, on ne change jamais de trottoir et on suit comme ça. On fait tout un circuit.
Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a énormément d'humour et beaucoup d'autodérision. Mmh. Et d'ailleurs, je crois, parce que je ne l'ai pas lu, mais j'ai juste feuilleté le livre. Et avant tous ces plans dont Astrid vient de parler, elle explique, elle dit juste un petit mot. En résumé, je passe toute ma balade dans le New York d'aujourd'hui à chercher des traces du New York d'autrefois. Mmh. Et pendant tout ce temps, je regarde les appartements et je m'imagine comment ce serait d'habiter là, de m'asseoir sur l'escalier de secours, au-dessus d'une petite boutique dans une rue passante pour mater les gens toute la journée. Je suis perpétuellement en train de fantasmer sur une époque que je n'ai pas connue et d'imaginer une vie que je ne connaîtrai jamais. Et je pense que c'est un peu son esprit à elle. Et c'est bon, elle, je connais quelqu'un adulte, hein, plus de 60 ans, qui lit très peu de bandes dessinées et qui a pris un énorme plaisir à lire L'attente infinie, mais qui est peut-être un peu plus dur parce qu'il y a vraiment des phases difficiles dans cette bande dessinée. Par rapport à son frère notamment, qui, bah, je crois, tombe dans la drogue, qui va faire des stages à l'hôpital et tout ça. Donc elle est très inquiète pour lui. En même temps, elle va développer une maladie, le lupus, qui n'est pas rien non plus. Et ça l'empêchera pas de travailler aussi après dans un restaurant, etc. Donc ouais, c'est une fille, je pense, qui a une vie très dense, et aussi ses parents, tout ça. Enfin voilà, donc ça peut être intéressant.
Qui est reconnue aussi, parce que je crois que j'ai lu qu'elle dessinait pour le New Yorker, par exemple. Mmh. Donc elle est reconnue aussi en tant qu'illustratrice aux USA.
Et elle a un blog, bien sûr, qui doit être intéressant, voilà.
Est-ce que vous avez le nom de ce blog ?
Eh bien, Julia Wirth. Non, mais si on tape Julia Wirth, on la trouve sans problème.
Hein. JuliaWirth.org, quelque chose comme ça.
Voilà. Donc, Julia Wirth, W. Alors, voilà, pardon. En plus, c'est bien ce qu'on m'aide. W-E-R-T-Z, pour vous, auditeurs. Et ça, c'est paru aux éditions... Je n'arrive pas à
dire. L'Agrume.
L'Agrume, merci.
La Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire s'associe à Radio Campus Tours pour donner une fois par mois la parole à un acteur de la recherche en sciences humaines et sociales dans son émission La Méridienne.
Structure fédérative des équipes de recherche en sciences humaines et sociales des universités de Tours et d'Orléans avec le CNRS, la MSH a pour vocation de favoriser les échanges interdisciplinaires et soutenir les projets émergents.
En appui à la recherche, son atelier numérique offre un panel de services pour accompagner chercheurs et doctorants de l'élaboration à la valorisation de leurs projets.
Pour plus d'informations, consultez le site internet www.msh-vdl.fr.
C'était une chronique de nos bibliothécaires de la bibliothèque municipale de Tours. Elle nous parlait de BD et elle nous parlait précisément de Julia Wirth. Cette émission, La Méridienne, touche déjà à sa fin. Et oui, merci à notre invitée Erika Guillet d'être venue nous parler de sa thèse. Erika Guillet, on rappelle une dernière fois votre sujet de thèse, c'est la langue des signes comme outil pédagogique pour l'enseignant.
Et merci alors, à vous.
Merci à vous. Et donc, on rappelle peut-être qu'on peut vous voir en vidéo sur YouTube.
C'est ça, sur Erika Guillet, ma thèse en 180 secondes, ou Erika Guillet, MT 180.
Voilà. Avis aux auditeurs, on mettra évidemment cette vidéo en lien sur le podcast pour que nos auditeurs puissent la retrouver facilement s'ils souhaitent en savoir plus sur votre travail. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. On se quitte sur Radio Campus Tours. Je rappelle que cette émission sera en podcast dès cet après-midi et à réécouter à minuit sur nos ondes. Bonne journée à tous, à l'écoute de nos excellents programmes.